Vous écoutez
RMC.
RMC, 8h-9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Mon cher Christian Recchia, bonjour.
Grande forme ce matin, sachez-le. J'ai la pêche.
Mais je sais pourquoi vous avez la pêche.
Je suis prêt à faire un marathon, marathon en moins de 3 heures.
Mais d'où vient ce polo bariolé?
En hommage à ma maman. Ma maman, qui est une très grande couturière de grande mode, oui. Eh bien, m'a appris la joie des couleurs et des tissus. Et alors, ce pull était destiné à Thierry Lafronde, puisque Thierry Lafronde nous a quittés pour Bruxelles.
Oui,
pour
les frites. Ça. Il est parti avant.
Et il est parti.
Mais je pense qu'il ne doit pas le regretter. Il ne doit pas, le regretter d'être parti avant, vous lui donniez.
Ah, bah écoutez, ce pull est phénoménal. Phénoménal. Je vais vous le donner.
Je pense que ça mérite une petite photo ou une petite story Instagram, ça, à retrouver sur mon compte F Sorel.
Soyons sérieux.
Alors mon cher Christian, plein de choses durant cette heure dédiée à la forme et la santé.
De la gravité et de la bonne humeur.
Tout à l'heure, vous m'apprendrez à faire du yoga avec notre invitée Charlotte Müller.
Grande dame, exceptionnelle,
je ne suis pas très
une
souple.
Des meilleures du monde.
Je ne suis pas très souple, Christian. Il y a du boulot.
Écoutez, on vous mettra des vérins pour tenir positions. Et d'ailleurs, j'ai apporté une valise de vérins et des oreillers pour que la position tienne.
Heureusement
parce que
Patrick
même si on est médiocre comme vous en yoga,
moi,
vous pouvez devenir champion du monde en... En 40 ans, on peut devenir champion du monde. Et à votre âge, tout va bien.
Bon, tout va bien. L'ordonnance du docteur Christian Recchia, ce sera avec Patrick Mulan. Quels sont les produits de saison à consommer sans modération?
Ah oui, je suis très fier d'être avec Patrick aujourd'hui parce qu'il va nous donner enfin le moment clé pour acheter des fruits et légumes et lesquels.
Voilà, ça sera dans quelques minutes. Mais pour débuter, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous joindre, poser votre question à notre médecin, le 3216, l'appli RMC, Direct Studio. Et on va débuter, Christian, par un point sur la situation concernant le coronavirus, hein, comme chaque semaine. Et vous voulez commencer par répondre aux accusations de l'ex-ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, justement à des accusations sur la gestion des masques par les médecins. Écoutez les propos de Roselyne Bachelot.
J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masques dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masques dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock. Qu'est-ce que c'est que cette médecine? On attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. »
Donc la petite charrette avec les masques.
Alors,
Christian,
si vous voulez,
que vous voulez répondre,
je suis juste,
à Roselyne Bachelot.
Juste avec beaucoup d'humilité, c'est une dame qui est bien née, ben c'est bien, tant mieux pour elle. Elle a une certaine culture, on le voit aux grosses têtes, ça rassure un petit peu. Cependant, là, elle a vraiment explosé
aussi,
un neurone. Oui, elle est très drôle, bien évidemment, mais qu'elle reste aux grosses têtes dans ces cas-là. Et concrètement, elle était sous le feu du serment. Elle était en serment. Et ça veut dire clairement que là, elle a offensé toute la profession médicale. Moi, je ne suis pas d'un syndicat. Je suis humblement médecin interniste. J'ai travaillé humblement 30 ans avec Cabrol. Et j'étais avec l'amiral Pierre Lacoste, directeur au Centre d'études scientifiques de défense sur les vulnérabilités de l'humain. Et nous savons que ma génération de médecins, nous avions l'obligation d'avoir 300 masques en réserve en permanence. Mais même si tous les médecins avaient 300 masques en réserve en permanence, puisqu'il fallait donner les masques aux patients, puisqu'il fallait des masques pour soi, en 10 jours, on n'aurait plus eu de masques du tout. Donc, Madame Roselyne Bachelot, vous montrez là votre haut niveau d'incompétence sur ce point-là. Alors, je dis que vous avez d'autres compétences, hein, j'ai beaucoup de respect pour vous, évidemment, compte tenu de votre statut. Mais là, vous plaisantez. Là, je demande des excuses. Demande des excuses très clairement. Je demande des excuses très clairement. Puisque tout simplement, sachez que mon ami, mes amis généralistes ont demandé des masques dans les pharmacies, il n'y en avait pas. Mais mes amis dentistes ont dû rendre les masques à l'administration, il n'y en avait pas. Mais c'est une honte. J'ai 51 médecins que nous constatons décédés. Il y a des médecins retraités qui sont repartis au combat et qui sont décédés. Madame Roselyne Bachelot, je demande des excuses. Venez sur le plateau, je vais vous expliquer comment et pourquoi l'agence sur la sécurité civile a été fondue par Monsieur François Hollande d'une façon inique, parce que François Hollande n'a aucune vision stratégique.
Christian.
Évidemment, maintenant, il faut une agence, il faut 3 milliards de masques. Ce que vous avez fait d'ailleurs remarquablement bien, madame, en 2009 avec vos vaccins, c'était remarquable. Je dois le signaler parce qu'il n'y a pas que du négatif. Et concrètement, je demande au président, je demande au Premier ministre, monsieur Jean Castex, de remettre en place une agence de sécurité civile avec la capacité du pays à promouvoir la prévention stratégique. Et la stratégie, ce n'est pas le médecin. La stratégie, c'est le pays, c'est la nation, c'est l'armée. Voilà.
Christian, Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Mais qu'est-ce que vous avez? C'est ce t-shirt qui vous énerve?
C'est tout simplement.
C'est pas possible, ça, franchement.
90 000 médecins généralistes qu'on a oubliés parce qu'on parle de l'ARS, alors, on parle des médecins hospitaliers. Les médecins généralistes, on ne les met pas à l'honneur. C'est la clé de voûte du système de santé. Et je suis content que Jean Castex revienne au pouvoir pour pouvoir structurer une démarche de subsidiarité. La subsidiarité, les régions.
Christian, juste une chose, et après on clôt ce sujet parce que j'ai l'impression que vous
m'avoir donné la capacité de m'exprimer.
Voilà, que votre tension retombe un petit peu. Juste,
je suis très calme.
J'en étais pas très sûr. Même Patrick Mulan commençait à s'inquiéter. Il était là, il a sorti le défibrillateur.
Je me suis pris l'oiseau.
et on est d'accord qu'il est normal pour des généralistes, pour des médecins, d'avoir un stock de masques.
Oui, mais c'est un stock de masques.
Est-ce qu'on est d'accord ou pas là-dessus?
Oui, mais c'est pas. Mais on prend pas ce ton-là.
Oui, oui, oui.
Si vous voulez, soyons sérieux.
On est d'accord.
Enfin, concrètement. Mais... Et en plus, derrière, des journalistes qui disent, avec Delta aurait raison, ça exacerbe la névrose. C'est une machine à névrose, cette phrase-là. Et Madame Roselyne Bachelot, franchement, les excuses, je les attends en studio.
Christian, la situation semble stable en France,
oui,
mais pas tant que ça concernant le Covid. On dénombre 128 clusters et c'est beaucoup.
C'est beaucoup, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'actuellement, le ministère de la Santé et les ARS maîtrisent les choses. Et autant on a été cas à cas pour les masques, pour les gels, pour l'organisation au début, mais maintenant, on est un des pays, finalement, où la stabilisation est excellente. Cependant, ce qu'il faut exprimer maintenant, c'est que le virus, au travers de l'expérience que l'on a pour les autres pays, l'exploration que l'on fait sur le plan scientifique, que constate-t-on? Eh bien que le virus atteint des personnes plus jeunes, que le virus se transmet beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, et le R0 sera pas à 3 ou 4, mais il peut être à 6 ou 7. Donc c'est extrêmement grave et on peut craindre...
Donc le R0, rappelons le nombre de personnes que peut contaminer une seule personne,
hein, il doit être en dessous de 0,60, autour de 0,50, grand maximum, pour stabiliser humblement une virose. Et concrètement, l'idée, c'est que en septembre-octobre, autour de 15 octobre à mon avis, on va devoir être extrêmement vigilant. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous partez en vacances, considérez qu'il faut de la distance physique, considérez qu'il faut des masques quand vous êtes dans un magasin, considérez qu'il faut concrètement se laver les mains en permanence, être à l'air libre en permanence, ça sera un élément important. Et pour moi, le doute arrivera en novembre-décembre, quand il y aura des rhinites, des bronchites, des bronchiolites, la grippe, et qui peut se confondre avec, ma foi, le coronavirus. Donc le pire est à venir, parce qu'on peut craindre effectivement une résurgence de ce virus.
Ce n'est pas certain, rappelons-le. Quand vous dites
certain,
le pire est à venir... Oui, mais Christian, personne ne le sait. Je veux dire, il y a autant de personnes qui vont dire...
Vous avez raison de mettre le là sur ce que je viens de dire, mais je préfère, comme l'a fait Roselyne Bachelot en 2009... prévoir le maximum
bien sûr.
Pour pouvoir subir le minimum. Et ça, c'est une très bonne action à mener de prospective et de prévention.
Christian, Grégory est avec nous au 32-16. Il a une question sur les piscines. Alors vous dites, mais c'est pour Christian Pesset en général, les questions pour les piscines.
Oui.
Sauf qu'elle vous est destinée, celle-ci.
Eh bien, merci Christian Pesset qui m'a redonné la question.
Bonjour Grégory.
Bonjour.
Bonjour Grégory.
Bienvenue, on vous écoute Grégory.
Donc voilà, je me posais une question par rapport aux piscines domestiques. À savoir, est-ce que, vu que les piscines municipales ont réouvert, je me demandais si, moi qui ai une piscine, je peux inviter des amis de ma fille ou mes beaux-parents, qui n'habitent pas forcément très loin, à partager un moment de convivialité dans ma piscine personnelle.
Alors, si votre piscine personnelle est bien gérée, bien réglée, au quotidien, voire plusieurs fois par jour, avec un environnement autour de la piscine, c'est-à-dire là où on se détend, là où on mange, là où on boit, jusqu'à la douche, je dis d'accord. Parce que dans la piscine, vous risquez pas grand-chose si la piscine, vous risquez rien si la piscine est bien...
Si
l'eau est bien gérée. Concrètement, c'est l'environnement autour qui est problématique. Donc, je dirais presque qu'il faudrait une femme de ménage ou un homme de ménage ou vous-même ou un volontaire dans la famille qui fasse que ça pour désinfecter la salle de bain, pour pouvoir gérer l'environnement autour de la piscine. Parce qu'évidemment, l'humidité, le virus adore. Et là, il faut être extrêmement prudent. Et d'ailleurs, les grands hôtels de France ont temporisé l'ouverture des piscines, quand je parle de l'excellent Ritz, où la piscine est absolument sublime, et puis d'ailleurs, où la où la prof de natation est une grande championne, eh bien, Béatrice André m'appelle très régulièrement en disant, ben, finalement, la piscine du Ritz n'ouvrira peut-être en septembre. C'est-à-dire que, et quand la piscine du Ritz est quasiment mais contrôlée.
Elle est intérieure en plus.
Elle est intérieure. Et
mais là, j'imagine que vous, c'est une piscine extérieure, Grégory, non?
Ah oui, je ne vis pas au Ritz.
Ah, non, mais il s'agit
c'est
pas
bien dommage, Grégory. Vous n'êtes pas comme, vous n'êtes pas comme Christian Reggia, finalement.
Quand on est sur le Ritz, ou d'autres hôtels d'ailleurs, que je n'ai pas cités, pardonnez-moi, c'est, on est vraiment sur l'absolu.
Ou l'Ibis de Orly, par exemple.
Sur l'absolu. Eh bien, même à l'Ibis de Orly, l'hygiène est la même. Ce que je veux simplement signaler, c'est stratégiquement, eh bien, ces grands hôtels ont pris la décision de temporiser. Donc, et pour les piscines professionnelles, eh bien, c'est pareil. Il y aura très peu de personnes par ligne d'eau. Et il n'y aura que 4 à 5 personnes en piscine pour une ligne d'eau, c'est très très peu. Donc les piscines en été massives publiques, c'est à mon avis impossible. Et dans votre piscine, dernier point, très peu de monde dans la piscine à la fois.
Ah, ça c'est embêtant. Parce que la convivialité dans la piscine, c'est s'amuser quand même.
Je sais que je fais...
Mais quand même, l'environnement du jardin est pas défavorable. Si c'est une piscine d'extérieur, on risque quand même beaucoup moins.
Beaucoup moins, mais plus qu'un endroit sec.
Merci beaucoup Grégory, et puis bonne baignade hein, quand même, hein. Franchement il faut un peu vivre. Attention mon cher Christian, il est temps maintenant avec Patrick Mulan de retrouver votre ordonnance.
Et quoi de neuf docteur ?
RMC.
Manger sain, manger frais, manger
les pommes !
L'ordonnance de Christian Reccia.
Bah justement.
Christian,
alors, évidemment.
Alors les produits de saison,
et oui, mais là...
il faut... manger, mais sans modération.
Écoutez l'extraordinaire émission de Patrick Mulan ce matin sur les parfums. Je vous demande, mesdames et messieurs, de reprendre les podcasts et de le réécouter minutieusement. Chaque enfant de moins de 3 ans devrait apprendre sa vie en apprenant à danser, en apprenant à chanter et en apprenant à écouter les parfums. C'est fondamental. Donc, s'il vous plaît, Patrick, donnez-moi maintenant les fruits de la saison. Nous sommes à l'acmé de l'année, s'il vous plaît.
Faut faire surtout pas ce qui a été dit dans le lancement. C'est pas manger des pommes. Les pommes, elles sont pas de saison. En ce moment, on mange des cerises, on mange.
J'ai d'ailleurs demandé de changer le jingle. D'ailleurs.
Voilà. Il faudrait l'adapter à la saison.
Exactement. C'est ce que j'ai demandé à Gilles.
Manger des tomates.
Mais n'oubliez pas
avec Jacques Chirac.
N'oubliez pas que si vous achetez des pommes actuellement, où on vous met Origine France, ces pommes ont été cueillies, au pire, en octobre dernier.
Ah oui ?
Les pommiers, ça fructifie à partir de septembre. Et on
laisse tomber les pommes, là, actuellement.
Les pommes, les poires, c'est plus trop de saison. En revanche, on est dans la période de cerises. On est surtout sur la période de fruits à consommer tout de suite. Vous voyez, parce qu'on disait les pommes, on les a récoltées à l'automne, on les mange maintenant. Là, ça veut dire que c'est des fruits de conservation. Les cerises... les fraises, les brugnons et les pêches et les abricots, c'est vraiment les fruits du moment. Framboises aussi. Mmh. Voilà. On est sur des fruits qui sont à consommer tout de suite. Quand vous achetez un kilo de cerises en ce moment, il faut le manger dans les 3 jours parce que très très vite. Et d'ailleurs, il y a un truc à regarder.
Dans la demi-journée.
Parce que vous gardez.
Moi,
tout,
je commence à les manger dans la voiture.
Dans la voiture.
Oui.
Ah, c'est vrai. Et les noyaux, vous les mettez où?
Je fais une catapulte.
Moi, je vais mais la prochaine fois, ouvrez la fenêtre. Parce que comme ça, ça évitera qu'ils vous reviennent dessus.
Mais il y a des mouches dans la voiture.
Je vais être encore plus coquin que Christian en disant l'idéal, c'est de manger tous ces fruits-là sur l'arbre.
Sur l'arbre. Oui.
Là, il n'y a pas mieux.
C'est vrai que c'est coquin, hein, Patrick. Faites attention. Franchement, là, 8h20, vous nous sortez des trucs ce matin.
Sur le cerisier.
Imaginez un peu la fiesta qu'on peut faire.
C'est vrai que c'est très sensuel.
Non, mais sans blaguer, ces fruits-là, contrairement justement aux pommes dont on a parlé précédemment, vous savez que quand vous récoltez une pomme sur un pommier, elle n'est pas à la maturité gustative, elle est à la maturité physiologique, c'est-à-dire qu'on
très
peut
important,
la cueillir. Et après, elle va mûrir
comme un vin. Comme un vin.
Voilà. En revanche, une cerise, quand elle est cueillie tout de suite, alors peut-être pas quand même dans la demi-journée, mais dans les 2-3 jours qui viennent, vous voyez sa queue, donc le pédoncule du fruit, qui va commencer à se rétracter.
Oui.
Et là, vous perdez énormément sur le fruit. Et puis après, la sensibilité de ce type de fruit, dont la pulpe est quand même très, très tendre, le moindre choc, ça les abîme.
Christian, la cerise.
Oh là là.
C'est un concentré de bienfaits.
Zéaxanthine, proanthocyanidine, tous les fruits rouges que vient de citer Patrick, monsieur Patrick.
Il faut pas trop manger.
Qui devrait être à l'académie.
Ah bah
et
oui.
Bien concrètement, tout simplement, ce sont les plus grands antioxydants, anticancéreux, protecteurs vasculaires, fabricants de prostacycline sur les vaisseaux. C'est exceptionnel. Il faut une foison de fruits rouges. Et puis, ensuite, il y a des pêches.
Alors tiens, j'ai une question pour vous. Quelle est la différence entre une pêche, un brion et une nectarine ?
Oh, écoutez Patrick, on vous donne la réponse.
Oui, alors allons-y.
Allons-y, on vous écoute.
Alors d'abord, sur le plan botanique, c'est la même chose. C'est le même arbre.
Tout pareil.
Sauf que la pêche donc, donne des fruits duveteux, oui. Les nectarines et les brions donnent des fruits à peau lisse.
Oui, oui.
Alors quelle est la différence entre un brion et une nectarine ?
Je ne sais pas.
C'est une question de noyau.
D'accord.
La nectarine a un noyau qui n'est pas adhérent à la pulpe. Donc vous pouvez l'ouvrir facilement et la manger
en
sans qu'il y ait plein de choses qui restent.
Le crack du fruit.
Voilà. Alors que le brion, lui, a un noyau adhérent et donc vous êtes obligé de sucer
et
le noyau.
Et la pêche plate que l'on met dans une eau glacée.
Ah ça, c'est une variété particulière. Mais qui est
très
savoureuse. Vous imaginez
au petit déjeuner, mesdames et messieurs, une pêche plate dans de l'eau glacée devant le Mont Ventoux avec du beurre, un pain moelleux. Oh là 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 là.
Dans la piscine.
Associer ce genre de pêche, notamment les pêches à chair blanche, avec des fraises.
Ah oui,
c'est vraiment superbe. Au niveau du goût, c'est génial. Vous faites des soupes de fruits du moment.
Mmh.
Là. Alors, dernier truc pour moi, c'est l'abricot. Je disais, il faut récolter les fruits d'été sur l'arbre, mais l'abricot, c'est vraiment celui qu'il faut vraiment manger à pleine maturité. Alors, on a du mal, même si on commence à trouver certains primeurs qui font attention, à trouver des abricots dans le commerce qui sont qualitativement... Mmh. Enfin, gustativement correct.
Je voudrais préciser et vous faire observer, nous sommes dans les 3 prochaines semaines, le moment dans l'année où il faut vraiment manger ces fruits, parce qu'après, ça sera des fruits d'outre-tombe qui auront fait 12 000 km.
On a jusqu'à mi-septembre.
Oui, mais...
Non, il y a des... Parce que
il y a
des variétés à maturité différentes. Donc jusqu'à mi-septembre, on a ces fruits,
et
pas
là,
les abricots,
et là, on
les
fait
cerises.
Plein.
Les cerises, fin juillet, il n'y en a plus.
Ah oui, donc ça veut dire qu'il reste 3 semaines. Quoi.
Les pêches, on en a jusqu'à mi-septembre de qualité. Les abricots, ça va se terminer aussi rapidement.
Mais la cerise étant le moteur protecteur vasculaire, alors que la pêche, l'est beaucoup moins.
Ouais, mais il ne faut pas abuser des cerises, après ça donne mal au ventre quand on en mange trop.
C'est très sucré comme le raisin. Comme la banane.
On en
vous voyez Gilles Val tout à l'heure avec 3 bananes monstrueuses dès le matin. Gilles, il faut manger des cerises, mais pas des bananes.
Et regardez, il mange son masque là.
D'ailleurs, bon,
il est un peu énervé parce qu'on est en retard.
Et Gilles est beaucoup plus mince que moi, alors qu'il est beaucoup plus grand que moi, vous imaginez.
Et vous savez pourquoi il est si mince? Parce qu'on est souvent en retard, ça le stresse.
Et là,
moi, je
là,
le vois
blême,
son visage, regardez-le.
Et
je dis, mais pétard, quand est-ce qu'ils vont envoyer la météo? Il ne l'envoie pas.
Gilles de profil.
Quand est-ce qu'ils vont l'envoyer? Alors maintenant, on l'envoie et il commence à faire des gestes.
Il est rose pour la première fois de sa vie, ça fait 12 ans que je le connais. Rose.
Christian, on revient dans un instant, on va parler du yoga. Tiens, ça fera peut-être du bien aussi à Gilles.
Oui,
hein,
oui.
RMC, 8h-9h.
Vous, cher épicier, débordé par les clientes, submergé par les carottes, les pois cassés et les choux-fleurs. N'hésitez pas.
Votre forme.
Voici, telle qu'on l'enseigne sur les bords du Gange, l'asana ou posture du lion, spécialement destinée à calmer l'individu et à refouler la colère.
Saluons donc aujourd'hui les vertus séculaires hautement calmantes du Hatha Yoga.
François Sorel,
Christian Vecchia.
Christian, en écoutant tout cela, on a envie de se...
Je dédie cette émission à monsieur De La Fontaine,
oui,
docteur, qui nous a permis de rencontrer madame, qui est ici présente, et nous sommes très très heureux et honorés de vous recevoir, madame.
Et nous sommes ravis d'accueillir Charlotte Muller, bonjour. Vous êtes donc professeur de yoga, et oui, parce que maintenant, nous allons découvrir cette pratique, alors qui est de plus en plus à la mode, hein, surtout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit énormément de postures de yoga, de cours de yoga, qui ont été même proposés pendant le confinement. Hein. Le confinement aussi a fait découvrir peut-être cette pratique. Christian, pourquoi vouliez-vous nous parler de yoga? Est-ce que, pour vous, c'est une pratique sportive tout aussi intéressante que tous les sports qu'on a déjà évoqués dans cette émission.
Pendant le confinement, j'ai rédigé un ouvrage en trois points. Le premier, c'est de découvrir finalement la nécessité que l'humain doit comprendre les besoins de l'humain. Je parlais avec Patrick tout à l'heure dans l'émission pour un enfant de comprendre les parfums, de comprendre le chant, de comprendre la danse, ce qui est, et le sport qui est un ascenseur pour apprendre à lire, écrire et compter. Et nous savons que les enfants qui font du sport et qui font du yoga ont 3-4 points de moyenne générale en plus parce que ces activités physiques et sensorielles permettent d'exacerber la structuration et la prolifération neuronale. Et là, nous sommes tous d'accord pour le dire. Oui. Et notre ouvrage que nous avons réalisé est un ouvrage qui se dit, bah oui, finalement, il n'est pas forcément nécessaire de faire 21 km de footing par jour pour être en forme physiquement. C'est pas nécessaire de faire 40 minutes de gainage stupidement tous les jours. C'est pas nécessaire de faire 4 heures de tennis pour s'entraîner. Il est parfois suffisant de faire des gestes simples, humble, délicat, où on apprend à expirer, où on apprend à inspirer avec de la relaxation, de la tempérance. Et c'est pourquoi je vais demander à Madame Muller, c'est quoi le yoga ?
Alors, juste avant que vous répondiez, j'aimerais qu'on vous écoute, vous qui êtes avec nous sur RMC. Alors, soit que vous témoignez parce que vous pratiquez le yoga, dites-nous si ça a changé quelque chose dans votre vie, ou si vous avez des questions sur cette pratique, le 32-16, le standard RMC, Amina vous attend, ou alors l'appli RMC Direct Studio avec votre smartphone et vous nous laissez donc votre numéro de téléphone. Charlotte, le yoga, c'est quoi ?
Alors, merci de me recevoir. Moi, je suis professeure de Fertility Yoga, donc c'est un yoga qui est très féminin. Oui. Et je vous en dirai quelques mots.
Le Fertility Yoga, oui. D'accord.
Je vais vous dire ça juste après avoir répondu à votre question. Qu'est-ce que c'est le yoga ? Alors, le yoga, étymologiquement, yuj en sanskrit, ça veut dire l'union. Donc, comme vous le disiez, aujourd'hui, on voit beaucoup d'asanas, beaucoup de postures très spectaculaires sur les réseaux sociaux. Mais le yoga, dans son sens originel, c'est vraiment l'union du corps, l'union de l'esprit et de l'âme. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça veut dire être aligné, être en paix avec soi-même et être en paix avec les autres. Avoir un corps qui est plus réceptif à cette paix intérieure.
Et donc, je disais hier à Laurent Petrinka, qui mériterait largement d'être le nouveau ministre des Sports, que le yoga est une activité qui devrait être apprise dès l'âge de 3 ans. Dès l'âge de 3 ans, c'est fondamental. C'est un activateur végétatif, c'est un activateur vasculaire. Nous avons le corps végétatif, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps social, le corps symbolique. Eh bien, il faut vraiment que l'ensemble de ces corps soient alignés. Alors, quand je parle de ces corps à des médecins traditionnels, ils disent, mais c'est quoi ? Ben oui, mais c'est le yoga qui permet d'aligner ces différents éléments. Et donc, quand aujourd'hui, vous faites des postures de yoga chez quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, comme moi, je parle pour André Comte-Sponville qui en fait tous les matins. Bonjour André, bonjour Guylaine. Eh bien concrètement, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que je dois faire ? Le matin, le soir, l'après-midi, je me lève, on fait quoi ?
Alors contrairement à justement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, moi je vous conseillerais de commencer par respirer avant de commencer à faire des asanas.
Respirer, mesdames et messieurs, c'est d'abord expirer. On sort l'air et l'air rentre tout seul.
Oui, on expire pour inspirer.
C'est-à-dire, mais comment respirer ? On respire tous. Là, il faut respirer comment ?
Alors, on ne s'en rend pas compte, mais on fait tous beaucoup d'apnée. Alors moi, en cours de yoga, moi, j'expire par le nez. J'inspire par le nez, j'expire par le nez.
D'accord. On expire par le nez.
Ouais.
Et pourquoi ?
Pour calmer le rythme cardiaque. Pour expirer plus
et
lentement,
si on
plus
progressivement. Si on le fait par la bouche, ça marche moins bien ?
Vous allez expirer une plus grosse quantité d'air plus vite et votre expiration sera plus courte. Alors que vous êtes limité par le nez. Et donc, vous allez expirer beaucoup plus lentement, progressivement. Vous allez abaisser votre rythme cardiaque.
Vous allez tout sentir.
Vous allez tout sentir. Et le système nerveux va avoir cette information que vous êtes en train de vous calmer.
D'accord.
Les grands yogis me disent, quand nous expirons par le nez, c'est un plaisir qui doit durer le plus longtemps possible.
C'est vrai qu'on... Alors, j'avais cru lire qu'on oxygénait aussi plus le cerveau et les organes, non ? En respirant par le nez.
Oui, parce que vous sortez l'air profondément. Quand vous expirez, le diaphragme s'élève. Il y a une surpression intrathoracique. Et tout d'un coup, le poumon dans la cage thoracique est tellement compressé qu'il y a une dépression intrathoracique qui s'opère. Et là, le sang veineux revient du cerveau et du sang nouveau arrive au cerveau. C'est une revascularisation. Et respirer en yoga, c'est une revascularisation. Ça vaut 1 km de footing, une expiration bien faite.
Donc déjà, bien respirer, c'est une partie de ce que vous enseignez, c'est
ouais.
ça
Oui, oui. Alors, Moi, j'ai un yoga qui est très féminin, mais si on commençait tous, peu importe homme ou femme, à inspirer et expirer par le nez, on commencerait tout simplement un petit exercice de 2 minutes, c'est mettre ses mains sur ses côtes et se rendre compte de comment on respire. Est-ce qu'on a une respiration qui est très thoracique, très bloquée au niveau des côtes, ou est-ce qu'on est capable de passer à cette respiration par le ventre qui vient en plus calmer, parce que beaucoup de terminaisons nerveuses dans le bas-ventre et beaucoup masser le bas-ventre.
Parlez un petit peu plus près du micro, s'il vous plaît.
Et là, concrètement, le deuxième exercice que vous feriez à un incompétent comme moi.
Alors, après être passé de cette respiration qui est très thoracique, j'écarte les côtes, je laisse les côtes se rétracter à l'expiration, je vais passer à une respiration qui est très abdominale et je vais essayer d'inspirer au niveau des côtes, puis inspirer au niveau du bas-ventre ensuite.
D'accord.
Soulever le bas-ventre.
D'accord.
Ah oui, ça, c'est pas évident. Jusqu'en bas.
Ça, c'est pas évident.
Ça, c'est évident. Parce que respirer du ventre, moi, j'essaie, mais j'y arrive pas.
Et en fait, vous allez ralentir le rythme cardiaque et là, on tombe dans la cohérence cardiaque. Ouais. Vraiment apaiser le corps. Et donc cette respiration de plus en plus lente. Et après, on peut rajouter des postures où on vient allonger la colonne vertébrale.
Alors, on est quoi épaules. On est debout, on est allongé.
On peut le faire debout comme on peut le faire assis.
Rêvons, mesdames et messieurs, vous êtes à la radio, allongez-vous à même le sol. Laissez le petit déjeuner.
Si Guylaine, vous êtes en train de conduire.
Guylaine, Guylaine à la joanine, laissez le petit déjeuner, allongez-vous.
Arrêtez avec Guylaine, s'il vous plaît. Ah bah, sinon, c'est gênant.
C'est gênant.
Non, sérieusement, c'est gênant.
Et donc là,
surtout pour votre femme.
Et là, concrètement, allons-y.
Alors, si vous êtes assis et que vous n'avez pas abandonné le petit déjeuner, ça donne les mains sur les côtes. À l'inspire, j'inspire, les côtes s'écartent.
Oui.
J'expire, les côtes se rétractent. Et puis l'inspire suivante, vous inspirez, les côtes s'écartent. Et puis vous allez essayer de continuer à inspirer et soulever le bas-ventre. Inspirer en premier
allongé
temps.
Allongé sur le sol.
Exactement.
D'accord.
Soulever le bas-ventre. Et c'est en dessous du nombril. Vraiment, le ventre se gonfle à l'inspire. Beaucoup de gens respirent avec une respiration qui est inversée. Et regardez les enfants. Les enfants, quand ils dorment, qui sont sur le dos, leur ventre se soulève. On a l'impression qu'ils se soulèvent d'un mètre quasiment, leur ventre. Et à l'expire, ils se relâchent. Ils n'ont pas le stress,
d'accord.
Ils n'ont pas les angoisses. Et ben, c'est comme ça qu'on devrait respirer. Avec d'accord. Le ventre qui se soulève, le ventre qui
d'accord.
Se relâche.
Charlotte, on revient dans un instant. On va poursuivre et vous allez nous expliquer votre pratique du fertility yoga. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça diffère par rapport au yoga que vous venez de nous expliquer ? Et puis nous aurons Christine aussi. Christian, qui a une question pour vous. Elle vient d'acheter un tapis de marche et elle aimerait savoir alors, à quelle fréquence elle doit l'utiliser. Et peut-être que même Charlotte pourra nous donner son avis là-dessus. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, vous pratiquez le yoga, n'hésitez pas à témoigner ce matin. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
9h moins le quart, le retour de ce week-end des experts de la forme et la santé. Christian Recchia est notre invité. Charlotte Muller, professeure de yoga, avec donc votre spécialité, le fertility yoga, qu'on va évoquer maintenant, hein, qui est un dérivé du yoga. Alors, on comprend fertility. Ça sert à quoi, le fertility yoga ?
Alors, Charlotte. Le fertility yoga, c'est une démarche purement scientifique qui vient du corps médical aux États-Unis, il y a 30 ans. Une psychologue s'est posé la question du niveau de stress chez les femmes à qui on avait diagnostiqué une infertilité. Et voyant que ses propres méthodes de psy n'arrivaient pas à apaiser le mental de ces femmes qui tournaient en boucle sur le sujet de l'infertilité et sur
bien
leur
sûr.
Souffrance.
C'était une obsession.
Exactement, leur souffrance liée à l'infertilité.
Souffrance du couple.
Exactement. C'est poser la question, est-ce que si on allait vers d'autres outils, comme le yoga, en le pratiquant de façon différente en début de cycle et en fin de cycle, parce qu'on connaît tous les yogas très commerciaux, très dynamiques, avec des studios qui pullulent, il y en a plus que des chaînes de café à emporter aujourd'hui, des studios de yoga, mais ce yoga qui est fait pour la femme, se pratique en fonction du cycle de la femme. Mmh. Donc plus dynamique en début de cycle, parce qu'on sait que le corps féminin est dynamisé par les œstrogènes, et beaucoup plus doux en fin de cycle, qui correspond à la partie du cycle où on a des
progestérone. J'aimerais expliquer le point, c'est que le fait de faire du yoga vous permet de revasculariser le périnée, de revasculariser les ovaires, de revasculariser le petit bassin, qui permet finalement de redonner une dynamique tranquille à l'ensemble du périnée. Et nous avons des enfants, des petits enfants, des adolescents qui n'ont jamais appris. Moi, je vois à l'école, déjà au CP, il y a des gamines qui sont perdues pour la nation tellement elles sont tendues concrètement. Et je vois des grandes sportives que j'ai côtoyer sur le plan sportif, qui, pareil, ne savaient pas. Et ça, c'est une intégration à mettre dans toutes les facultés de médecine. Donc aujourd'hui, que faites-vous à des patientes, par exemple ? Que faites-vous pratiquement ?
Oui, allez-y, Charlotte.
D'accord. Alors, Le fertility yoga, je l'enseigne différemment en début de cycle et en fin de cycle. Donc, je ne vois pas les mêmes élèves pour un cours et pour un autre. Elles n'échangent pas de cours comme elles le souhaitent. Elles suivent leur cycle. En première partie de cycle, on va faire, donc, avant l'ovulation, hein, concrètement, jusqu'à en moyenne J14 de votre cycle, on va avoir des positions qui sont très en ouverture de hanche. Cette respiration dont je vous ai parlé avant, qui est une respiration qui est vraiment diaphragmatique, abdominale, basse, en dessous du nombril, on va la faire dans toutes ces positions dynamiques, donc grosse vascularisation. C'est sûr, ça descend jusqu'aux viscères du petit bassin, c'est très important, très grande ouverture de hanche, et beaucoup plus calme après, beaucoup plus doux, beaucoup plus en introspection. Il y a des femmes qui ont des syndromes prémenstruels très très forts, qui ont des émotions très fortes, et pour elles, voilà, ça devient beaucoup plus méditatif, et ça apaise le mental.
Charlotte, pour revenir au yoga traditionnel, on a Brigitte qui nous pose cette question. J'ai de sérieux problèmes aux genoux, est-ce que je peux malgré tout pratiquer le yoga ?
En fait, c'est assez simple. Si vous avez des douleurs au genou, il faut faire des positions où vous n'avez pas soit d'hyperextension, soit vous n'avez pas des flexions qui sont trop fortes sur le genou. Mmh. Des positions qui sont douces pour vous. Le yoga, c'est pas seulement les asanas avec la tête au sol et les pieds en l'air, oui, des inversions.
Des postures qui sont spectaculaires.
Hein. Oui, voilà, des spectaculaires sur les réseaux sociaux, toujours plus spectaculaires. Mais la réalité, c'est vraiment commencer par des positions simples où vous respirez. Vous prenez le temps de sentir la position et sentir votre corps. Écoutez-vous.
Christine est avec nous au 32-16. Bonjour Christine.
Bonjour, oui, Christine. Bonjour à tous et merci de prendre ma question.
On vous écoute.
Voilà. Alors donc j'ai acheté un tapis de marche. Je vais avoir 70 ans et donc je jardine beaucoup. Je me dépense quand même. Mais j'avais envie d'un tapis de marche pour quand il ne fait pas beau, pour toujours avoir de l'exercice.
Très bien.
Et je voulais demander au docteur, parce que j'ai été opérée de deux hernies discales et opérée de la hanche, ce qui me conseillait combien de kilomètres je dois faire, à quel rythme.
Alors,
voilà, merci
Christine,
docteur.
Christine, merveilleux, merci pour la question.
Vous avez tenté le yoga déjà, Christine, ou pas?
Non, du tout, parce que j'ai toujours été hyper active, même dans mon travail. Et donc là, après, j'avais des problèmes de dos et je jardine beaucoup, donc j'étais assez occupée. Voilà.
Bon, il va falloir que Charlotte s'occupe de vous.
Alors, Christine, nous allons vous donner l'adresse de Charlotte et nous allons œuvrer pour l'ensemble de vos articulations. Vous allez vous sentir mieux. Alors, réponse à la question.
Oui.
Vous êtes sur un tapis de marche.
Oui.
La cavitation plantaire, la voûte plantaire est une éponge. Quand vous marchez, vous l'écrasez et le sang veineux, lors de l'inspiration, remonte dans le thorax. C'est du yoga. Le marcheur qui marche le bassin au centre des genoux, au centre des pieds sur un fil à plomb en permanence, c'est un marcheur qui fait marcher ses pieds comme une roue fonctionne et la respiration se fait au fur et à mesure de la démarche. Donc il faut une marche les yeux fermés,
oui.
Il faut une marche en inspiration une fois que vous avez expiré et comme le dit Charlotte Muller, une expiration le nez par le nez, lente, ce qui veut dire que vous devez vous échauffer. À nos âges, nous avons quasiment le même âge, Charlotte, à nos âges, il faut nous échauffer. Et l'échauffement est aussi important que l'activité physique elle-même. Un échauffement à nos âges, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs les auditeurs et auditrices, c'est 15 minutes, c'est long, c'est pas 3 minutes 25 et on démarre, c'est tranquille. Et après, la marche, quand vous avez fait cette expérience de marche tranquille en échauffement, là, ben vous marchez, mais toujours, il faut sentir la cavitation plantaire.
Quelle vitesse? On a une idée de la vitesse, Christian, ou pas?
4, 5, 6, parce que quand vous êtes à 7, vous commencez à courir, donc 4, 5, 6, et attention, il faut vraiment que vous écrasiez le pied, et je dirais même que le tapis devrait se faire pieds nus, pour que vous sentiez carrément la cavitation plantaire. Et je dirais même qu'un podologue serait le bienvenu dans cette démarche pour voir comment tout cela est organisé.
Merci Christine. Tiens, pour rebondir, Charlotte, sur les propos de Christine, faire du yoga, à n'importe quel âge on peut commencer ?
Bien sûr, parce que le but, c'est pas de faire ces asanas, ces positions spectaculaires. Le but, c'est vraiment d'abord de respirer, de se reconnecter à soi, donc cette union du corps, de l'esprit. Le but du yoga, à la base, c'est de vous apporter, de vous amener via les positions à l'état de méditation. C'est calmer le corps pour calmer l'esprit. Donc toutes ces positions qu'on voit, en fait, quand on se parle de yoga, vous vous attendez à des positions, alors que la méditation, c'est une partie essentielle du yoga. c'est pas différent, ça fait partie du yoga. Et donc apaiser le mental. Et on peut faire des positions qui sont simples, assises, des petites torsions à droite, à gauche, ouvrir la cage thoracique, reculer les épaules, monter les bras, ouvrir vraiment ses poumons. Et ensuite, s'allonger et faire une méditation qui est très simple. Alors méditer, ça fait peur. On se dit, oh là là, moi, j'ai pas l'esprit apaisé, j'ai l'esprit qui part dans tous les sens, je peux pas méditer. Il suffit de compter les secondes de souffle. J'inspire 4-5 secondes, j'expire 8-10, je fais ça 5-10 minutes, j'ai médité.
Et quelle est la meilleure porte d'entrée pour débuter dans le yoga? Est-ce qu'il y a un site, je sais pas moi, sur des réseaux sociaux, des choses comme ça, qui sont un bon point de départ pour tous ceux qui aimeraient tenter mais qui n'ont jamais fait?
Alors, les livres sont assez bien faits généralement parce que vous avez des éditeurs qui vous demandent d'être très pédagogue et vous détaillent les positions de Hatha. Commencez par du Hatha parce que du Vinyasa, c'est très dynamique. Donc, yoga Vinyasa, on appelle ça des flots. Ce sont des postures, justement, qui sont enchaînées très rapidement. Et on ne vous aidera pas nécessairement à poser votre souffle. On ne vous dira pas inspire, expire, inspire, expire. Ça va être plus dans le mouvement. Alors qu'une séance de yoga Hatha qui vous explique les fondamentaux, c'est très bien pour commencer.
J'aimerais souligner, pardon François, un point très important. C'est que en faisant ce yoga périnéal, il y a une amélioration considérable de la fertilité. Et le docteur de La Fontaine m'a signalé l'existence de Charlotte Muller parce qu'il y a une efficacité sur la fertilité. C'est très important d'exprimer ça.
Si on veut en savoir plus, fertilityyoga.tv.
Oui, j'ai une chaîne où on fait des cours en ligne et effectivement, il y a plus 175% de taux de grossesse sur les filles avec ce yoga.
C'est dingue, hein, franchement, on apprend. Alors, j'ignorais totalement tout ça. Merci beaucoup, Charlotte.
Merci
Charlotte. Christian, on se retrouve la semaine prochaine.
Oh, avec
et
grand
j'espère
bonheur.
Que vous allez vous mettre au yoga maintenant.
Je vais me mettre au yoga après mon gainage. Oui.
Ah, c'est très bien, c'est très bien. Raphaël Grabli arrive dans ce studio.
Raphaël, beau comme un dieu, comme d'habitude.
Je suis ébloui par ton polo, Christian.
Mais j'en ai un pour toi très, aussi. Très pour
le long, on dirait Agassi 1993.
80, ou 92.
92.
Peut-être. D'ailleurs, j'ai fait une petite story sur Instagram.
Ah, d'accord.
Ah oui, comme ça, au moins, tout le monde peut le voir.
On peut faire l'échange avec ta chemise, éventuellement.
Non, je te laisse ton polo.
Raphaël Grabli dans un instant, la vie numérique.